pour l'ours blanc, Marie de Quatre Barbes pour la tête et les cornes, François Ranoux pour Babel Heureuse, et le températeur de cette rencontre est André Chabin pour Entrevue. Je lui laisse la parole. Merci.
Merci. Mais d'abord, bonjour à tous. J'espère que le tous sera un peu plus, sera un peu plus vrai dans quelques minutes. L'heure est ingrate et les revues savent à quel point elles sont habituées souvent à parler dans un silence royal. Donc, merci de votre présence. Bonjour à tous. Donc, je représente les gens qui sont ici. Marie de Quatre Barbes qui nous parlera de La tête et les cornes, qui vient de sortir son 7e numéro. Hervé Laurent qui nous parlera de L'ours blanc, qui vient de sortir son 22e numéro. François Ranoux nous parlera de Babel Heureuse, qui prépare déjà son numéro 5. Et enfin Fabien Drouet, qui nous parlera de la petite dernière, qui s'appelle 21 minutes. Voilà. Alors, je reviens sur chacune des revues. Voilà deux revues qui sont nées en 2014, pratiquement simultanément. Mais bien qu'elles soient suisses, l'ours blanc mène un train d'enfer, puisque, comme on l'a dit, il y a déjà 22 numéros parus, alors que La tête et les cornes se fait assez rare, puisque elle sort simplement son septième numéro. Babel Heureuse est née en 2017, si je ne m'abuse, et enfin, tout neuf, tout jeune, 21 minutes, est sorti début, je crois, au mois de janvier 2019. Donc, voilà. Alors, je vais commencer peut-être par... D'abord, je vais commencer par dire que métamorphose en revue, c'est un court propos liminaire, le mot métamorphose fonctionne très très bien avec le mot revue, puisque finalement, les revues, au cours du siècle passé, n'ont cessé elles-mêmes de se métamorphoser. Elles s'interrogent toujours sur comment faire revue. Comment faire revue hier, comment faire revue aujourd'hui. Donc elles ont imaginer, penser, développer toutes les formes, tous les formats, toutes les techniques. Alors bien évidemment, il y a peut-être une technique qui va un peu nous manquer ici, bien que François pourra en parler, c'est d'avoir accueilli parmi nous une revue qui serait exclusivement électronique. Mais on en parlera, puis on en parle maintenant tellement souvent que revenir au papier, ça fait un peu de bien. Et enfin, métamorphose aussi, parce que les revues ne cessent de métamorphoser ce qui leur est donné. En fait, elles ont ce charme qu'on espère durable et pérenne de transformer un texte d'un inconnu en un nom reconnu au sommaire d'une revue. Donc elles ont cette capacité de transmutation, si je puis dire. C'est sans doute une des vertus les plus chères des revues. Alors maintenant, je viens à toi, François, pour nous parler un peu de Babel Heureuse. Ben, vous allez nous dire un petit peu, en quelques mots, quels sont la revue, ses objectifs, etc. Quel est son projet. Alors à toi d'abord.
Alors merci. Donc Babel Heureuse est une revue semestrielle, qui est une revue créée avec Gwen Catala. Babel Heureuse a commencé, en fait, il y a eu un numéro de Babel Heureuse en 1984. C'était une revue un peu comme 21 minutes, complètement renéotée, une revue d'étudiants. Et puis ensuite, j'ai fait pendant 12-13 ans, j'ai fait une revue papier qui s'appelait La rivière échappée. Mais en fait, pour moi, la revue, c'est un espace où plusieurs voix se rejoignent. Donc pas de numéro thématique, pas de dossier à proprement parler, mais l'idée est que plusieurs voix puissent arriver à former les différents chapitres d'un livre. Ce serait donc un livre pluriel. Et à faire écouter, à faire lire, mais à faire aussi écouter, à faire entendre. Et donc mon idée depuis très longtemps, c'était d'arriver à faire en sorte qu'on puisse créer une revue qui soit une revue papier et qui renvoie aussi à une dimension... C'est le sous-titre de la revue, hypermédiatique. Alors, hypermédiatique, ce n'est pas parce qu'on est au journal de 20h tous les soirs. C'est simplement parce qu'à l'intérieur, il y a des liens hypermédias. qui renvoie non pas à un site véritablement, non pas à un blog, mais à une création web. Ben Catala a réalisé une sorte d'ouvrage, à proprement parler, informatique, où on retrouve la revue et où on peut donc la découvrir selon un ordre complètement aléatoire. Alors que la revue papier, elle, impose d'une certaine manière un ordre successif par le sommaire, même si on peut la feuilleter et l'ouvrir à quelques pages que ce soit.
Très bien, merci François. Marie, alors pourquoi La tête et les cornes et comment La tête et les cornes ?
Alors, avant La tête et les cornes, il y a eu une toute première expérience de création de revue. C'était en 2012, je crois, où nous avons créé, donc Maëlle Guédon, Stéphane Corvin et moi, une petite revue dont tu te souviens sans doute.
Qui était une merveille absolue.
qui s'appelait Série Z. Et c'était un petit objet qu'on produisait vraiment manuellement, tous les trois, et qui s'est vraiment construit autour d'une amitié, d'un moment où on était tous les assez proches et où on avait envie de faire exister une petite forme ensemble. Par la suite, on a interrompu cette revue parce que les circonstances de la vie ont rendu difficiles ces moments assez réguliers où on travaillait ensemble. Mais voilà, il y a eu ensuite un nouveau projet de revue qui est le suivant, qui est la revue dont je m'occupe actuellement, toujours avec Maëlle Guédon, mais avec deux autres personnes, Benoît Bertelier, qui est traducteur, et maintenant Johanna Mienguyen, qui est typographe. Et un peu de la même manière, là aussi, il y a eu des circonstances amicales, et un peu au sens large, avec des conversations, bien sûr, sur la poésie et ce qu'on avait envie de lire, tout simplement. Et cette revue, La tête et les cornes, on l'a créée parce que on avait envie de... Moi, je ne suis pas spécifiquement traductrice. J'ai traduit un peu de l'anglais. On a traduit d'ailleurs tous les trois par la suite une auteure américaine qui s'appelle Dawn Lundy Martin, mais je ne me définis pas comme traductrice. Il y a plein... Enfin, je ne suis pas du tout... Je parle très peu de langues, etc. C'est un regret. Et notre envie, c'était que cette revue soit un espace ouvert, notamment pour des traducteurs qui auraient envie de nous proposer, de nous faire découvrir des choses. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de publier de la poésie traduite. Bien sûr, il y a des éditeurs qui s'y emploient magnifiquement, avec peut-être parfois aussi des champs, des nationalités qui sont plus représentés que d'autres. Benoît est traducteur du coréen. La scène coréenne, contemporaine, poésie, elle est proliférante, elle est passionnante. Il a aussi une très bonne connaissance de l'histoire de la poésie coréenne et puis aussi de cette particularité de la division du pays entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il a une très bonne connaissance aussi de la poésie, on va dire, de propagande nord-coréenne. Donc il y a toute une espèce d'ancrage qui était assez intéressant, qui vient de cette spécificité de Benoît, de ses champs d'intérêt. Donc on a construit un premier numéro avec une sorte de petit dossier dans lequel Benoît a traduit des auteurs tout à fait inédits en français. Et puis on est associé à cela d'autres des auteurs américains parce que ça fait partie aussi de notre ancrage de nos lectures. Et puis et progressivement, en fait, comme ça, on est allé de numéro en numéro sans jamais savoir très bien d'ailleurs s'il allait avoir un prochain numéro, parce qu'à chaque fois ça dépend beaucoup du hasard, des rencontres et des rencontres avec les textes. On a continué, en fait, de façon très irrégulière à fabriquer des numéros de revue. Et avec aussi un moment dans la brève histoire de La tête et les cornes où on a changé de format, c'est-à-dire qu'on est passé d'un quelque chose qui était un petit livre que je concevais entièrement moi-même du point de vue de l'objet à cet objet.
On va en parler peut-être. Voilà, on va en parler tout à l'heure.
Mais enfin, il y a eu une sorte de mutation aussi de l'objet. Mais je m'arrête parce que je parle beaucoup.
Non, mais tu fais bien. Comme je n'ai rien à dire. Bon, Hervé, sois aussi long et présente-nous un petit peu l'ours blanc, s'il te plaît.
Non, alors je repartirai. Je fais une petite introduction, mais ça va être très court pour remettre
en
contexte.
C'est déjà long pour dire que ça va être court.
Oui, c'est ça. Tu sais, c'est les gens qui disent toujours je serai bref. On connaît. Mais l'année dernière, à peu près à la même époque, c'était un petit peu plus tard, je crois, j'étais à Marseille au CIPM pour parler de revues de poésie, et à ce moment-là se jouait le quart de finale de la Coupe du Monde de football. Donc cette fois-ci, c'est la finale de Roland-Garros, ce qui me fait dire que l'activité des revues est peut-être une activité intempestive, qu'il faut toujours se ménager une contre-allée ou une voie de secours ou peut-être une ligne de fuite pour échapper à l'actualité. En même temps, avoir une revue, c'est aussi être dans l'actualité, c'est aussi être dans l'air du temps. Tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de revue numérique. C'était une des questions que nous nous sommes posées lorsque nous avons créé à Genève l'Ours Blanc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens de produire et de publier des textes en format papier ? Je le dis parce que l'Ours Blanc est un objet tout à fait modeste, un agrafé, mais qui a donné lieu quand même et qui donne lieu pour chacun de ses numéros à un travail tout à fait singulier de la part de la graphiste Gaïa Biaggi qui travaille avec nous depuis le début. Donc oui, on peut continuer à faire des revues papier. C'est encore une manière d'être intempestif. Mais désormais, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire qu'il faut que d'une certaine manière, cet objet soit irremplaçable, ne puisse exister dans sa version numérique. Après, par ailleurs, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'objets uniquement papier. Donc, il y a un site, il y a des liens, il y a des entretiens que nous réalisons désormais avec chacun des auteurs et des auteurs que nous invitons, qu'on peut lire sur le site de l'Ours Blanc. Donc, voilà, tout ça pour recontextualiser très rapidement. Et je dis encore juste une chose, c'est publication toujours par deux numéros, un auteur ou une auteure suisse romande, et un auteur francophone et en traduction, et puis publication aussi d'un seul auteur par numéro, ce qui nous distingue un peu d'autres revues qui ont des sommaires. Je n'en dis pas plus pour l'instant.
D'accord. Je précise d'ailleurs que Marie a été l'invité de l'Ours Blanc, je crois que c'était le numéro 19 ou 20.
Montrais tout à l'heure.
Fabien, donc 21 minutes, d'abord ce titre est en forme de clin d'œil. On l'aura compris. Alors, explique-nous un peu ce que veut être 21 minutes.
Alors, 21 minutes, ça a commencé par un espèce de constat en prenant le métro et les transports en commun lyonnais, de voir que comme proposition de lecture, comme tout le monde le sait, il n'y avait que des journaux gratuits d'information, enfin d'information entre guillemets, et des tracts publicitaires, tout ça, et qu'il y avait une non-représentation de quelque chose que j'aime, qui est les formes courtes et la poésie en particulier. Donc, partant de ce constat, et en voyant aussi que les gens cherchaient finalement aussi à lire et à communiquer aussi, je me suis dit que c'était un peu bête qu'il n'y ait pas comme proposition de la lecture, pour reprendre le terme, un peu intempestive, qu'on n'a pas choisi au départ et qui nous tombe dans les mains. Et donc voilà, une proposition d'une revue ou d'un journal de poésie. Ensuite, ça a démarré. J'ai commencé tout seul, j'ai lancé l'appel à texte. Et il y a eu beaucoup de réponses et beaucoup de retour positif sur l'initiative dès le début, parce que je pense que même si c'est moi qui ai initié cette revue, elle était un peu dans l'air du temps, on va dire, et que l'idée était, bon, ça a de toute façon déjà existé, un journal gratuit comme ça, mais l'envie était là, donc les gens ont vite récupéré et prolongé un peu ce que j'avais proposé, en le partageant pas mal par réseaux sociaux, tout ça. Et on a eu pas mal de propositions de textes assez rapidement. Et on a ouvert une cagnotte où il y a eu pas mal d'argent, voilà, et qui a ensuite permis l'impression et la distribution dans les rues. Donc voilà, comment ça a démarré.
Très bien. Je précise d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais que tu fais une autre revue qui s'appelle La Terrasse.
C'est ça, ouais.
Et j'aime beaucoup, en fait, dans le 21 minutes, en dehors du fait que c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir une trentaine de contributeurs dans ce format tout à fait modeste. J'aime beaucoup son paratexte. Je lis ce qu'il y a en une. Est-ce que l'art sauvera le monde ? Est-ce que le monde demande à être sauvé ? Qui est le monde ? Le journal 21 minutes ne répond pas à ces questions. Et en dernière de couverture, ne pas jeter sur la voie publique, ne pas jeter du tout, transmettre. Donc voilà, c'était, j'utilisais le mot paratexte à dessein, puisque je vais me tourner de nouveau vers, vers Hervé Laurent, parce que c'est une des particularités. S'il y a bien une métamorphose dans L'Ours Blanc, c'est la place du paratexte. Donc dis-nous d'abord ce qu'est le paratexte, où est-ce qu'il se trouve dans la revue, et pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement, à moins que ça en soit eu, une coquetterie.
Alors, ça pourrait être vécu comme une coquetterie. Je ne pense pas que ça en soit une. Et j'en veux pour preuve le dernier Ours Blanc qu'on vient de publier, qui est un texte de Pascal Poyer qui s'appelle Un futur. Donc la revue, comme André le rappelait, a cette particularité d'avoir en son centre 4 pages qui sont les pages dans lesquelles d'ordinaire on réunit toutes les informations concernant la publication, les numéros précédents, les sponsors lorsqu'il y en a, et chez nous une petite bibliothèque qui est en train de se constituer des écrivains qui ont à un moment ou à un autre évoqué la figure de l'Ours Blanc, mais qui n'a rien à voir avec les textes que nous publions par ailleurs. Et ces 4 pages-là, plutôt que de les renvoyer à la fin, on les a mises au centre du cahier parce qu'on pourrait décider de les enlever, c'est un agrafé. Et si on les enlevait, on se retrouverait dans la situation où on n'aurait plus à l'intérieur du cahier que le texte que nous publions. C'est-à-dire que le titre est sur la page de couverture, le numéro de la revue et la saison et le dessin d'ours blanc qui l'accompagne est en 4e de couverture, mais à l'intérieur du cahier, il n'y a que le texte lui-même. Et Pascal Poyer donc, nous a pris au mot et nous a pris au sérieux, ce qui nous a fait très plaisir. C'est-à-dire qu'il a construit son texte en 2 volets. Le texte s'appelle Un futur. C'est une réflexion sur le redémarrage de la poésie, sur sa métamorphose peut-être, incessante ou permanente. 30 sections sont placées avant d'arriver au centre du cahier et sont toutes une reprise, une réflexion et un développement de la dernière proposition du Tractatus de Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui pour un poète, cette injonction bizarre? Et la 31e section couvre la totalité de la 2e partie du cahier et reprend l'ensemble des verbes qu'on rencontre dans la traduction française du Tractatus, à partir desquels Pascal Poyer a écrit un poème. Tout ça pour dire que tout d'un coup, ce qui peut être parfois frivolité peut redevenir essentiel. Et c'est un des plaisirs de travailler avec des formats de ce type-là, que de pouvoir rendre ces situations possibles.
D'accord. Disons que pour lire le texte de Pascal Poyer, il faut avoir des muscles dans les jambes pour pouvoir escalader le texte. Non, c'est un texte...
Je vous en lis un passage. Hein,
voilà, non, mais tout à l'heure. C'est un texte assez vertigineux, disons-le. Marie, métamorphose aussi. Alors, j'aimerais bien que tu nous montres, si tu les as, les premiers numéros. Là, il y a une autre forme. Non, tu les as pas. Bon, écoute, explique-nous alors comment est composé cet objet insolite. D'abord, il a une qualité par rapport à la précédente série, c'est qu'on peut... Il n'y a pas besoin de loupe pour... Vous avez augmenté légèrement le corps, c'est quand même formidable. Non, parce que cette revue a une particularité qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu, mais que Marie, tu vas nous expliquer.
Oui, bien sûr.
Ou je vais montrer en tout cas.
Alors, je voulais juste un tout petit peu rebondir sur aussi cette histoire de paratexte. Ouais. C'est-à-dire que c'est une revue qui n'a pas de paratexte.
Pas du tout.
Et voilà, il n'y a pas... c'est... Et par ailleurs, il n'y a pas non plus les textes dans la langue originale, ce qui nous vaut régulièrement des critiques, évidemment. Mais nous, c'est quelque chose qu'on assume pleinement et auquel on tient tout à fait.
Je vais une toute petite incidente pour dire, effectivement, tu parlais beaucoup du rôle de la traduction qui me paraît essentiel. Et ce qui me paraît moins essentiel aussi, c'est que vous allez fouiller des langues qui sont vraiment très peu traduites. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire un compte-rendu d'un numéro. C'est vrai que j'ai oublié tous les noms des poètes parce qu'ils sont imprononçables pour moi. Mais c'était une poésie telle que je n'en avais effectivement jamais lue.
Oui, alors il y a là concrètement, enfin il y a aussi il y a des langues effectivement qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de lire. Il y a un auteur birman par exemple qui a été traduit par Jean-René Lassalle. Il y a aussi des et particulièrement dans ce numéro des quelque chose qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est des personnes, des poètes qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle. Donc c'est le cas par exemple de Dagmar Krauss qui écrit en allemand mais qui est polonaise, enfin qui est arrivée en Allemagne vers l'âge de 10 ans, mais vraiment dans la langue maternelle et le polonais, et qui le traduit d'ailleurs. Il y a aussi Ho. Ho, c'est un poète coréen qui écrit en japonais, et c'est évidemment traduit par Benoît, que j'évoquais précédemment. C'est aussi assez particulier, parce que Benoît nous expliquait que c'est un texte coréen dans le japonais. Donc il y a aussi ces espèces de mutations qui viennent de la manière dont on s'inscrit dans une langue qui n'est pas forcément sa langue maternelle. Mais bon, il y a beaucoup de choses que je pourrais en dire et peut-être que je pourrais parler de haut un peu plus tard. Mais pour revenir à ta question, effectivement la forme, elle est à la fois toute simple finalement. Et en tout cas, elle a été guidée aussi par des questions très matérielles et aussi financières, c'est-à-dire que C'est déjà un. Effectivement, j'ai pas pris les précédents numéros qui étaient brochés. C'est un objet qu'on peut fabriquer soi-même, enfin qu'on peut relier nous-mêmes en tout cas, puisqu'il est agrafé. Il a cette particularité d'avoir des pages qui sont d'une couleur, qui sont colorées. Oui. Ce qui aussi parfois est, enfin voilà, qui peut gêner d'ailleurs, hein, de lire. Est-ce qu'on a envie de lire sur papier rose évoquant parfois le papier toilette, moi j'aime beaucoup. En tout cas, à chaque fois, la couleur change. Donc là, on est sur une sorte de d'ivoire. Et ensuite, il y a cette couverture, en effet, c'est Johanna qui a imaginé cela, qui se déplie et qui révèle un poster. Alors, c'est une manière un peu coquette, pour le coup, de cacher la reliure, donner le sentiment, finalement, que c'est juste un pli, puisque la revue, c'est un pli, finalement, et en même temps de renforcer matériellement un objet qui est quand même assez fragile, de le protéger. Sa souplesse aussi est paradoxalement quelque chose qui le protège, parce que des livres un peu rigides, parfois, sont plus fragiles que des livres souples. On a aussi un choc des matières, puisque autant à l'intérieur, on est sur un... En fait, c'est un papier recyclé qui est mat, puis à l'extérieur, on a quelque chose d'un peu glacé, qui évoque le magazine, mais on est quand même assez loin de Elle ou de Paris Match, mais bon, quand même. Et voilà. Et à l'intérieur, alors c'est la conceptrice de l'objet, la graphiste, la typographe qui a imaginé suivre en fait une sorte de principe qui est de prélever des photographies, enfin de prélever des échantillons finalement de la bibliothèque d'un poète contemporain que nous aimons beaucoup, qui est Claude Royer-Journoux, et d'en présenter à chaque fois une portion. Alors là, il y a du A et il y a du D, puisque c'est une bibliothèque qui est classée par ordre alphabétique. Mais donc on a en tout cas, voilà, c'est un espace aussi que Johanna, qui est comme une sorte de carte blanche, et où elle intervient, et où elle-même intervient éditorialement, finalement, à cet endroit-là.
D'accord, merci. François, Métamorphose, là on peut le dire, puisque tu le rappelais toi-même, le poète que tu es aussi un revuiste aguerri, puisque tu as créé il y a, je sais pas, c'était au milieu des années 90, je crois, une revue qui s'appelait La Rivière Échappée, qui a eu 11 numéros, 10 ou 11, je crois.
12 numéros.
Et puis, ce qu'il y a d'étonnant dans ton geste, c'est que cette Rivière Échappée qui s'est peut-être tarie, a connu un destin numérique, si on peut dire, puisque tu as créé une page Facebook qui lui est dédiée. Et puis ensuite, tu as donc inventé cette Babel heureuse avec l'aide de l'éditeur Buen Catala, effectivement. Donc je voudrais comprendre ces cheminements, ce cheminement de l'amour du papier. La Rivière Échappée était une revue très, très classique, enfin, qui obéissait à quelques modèles qu'on a tous en tête, que je nommerai sans doute un peu plus tard. Et donc là, ce changement est vraiment radical, à la fois un changement vers une certaine, disons,
beauté physique, matérielle, une sorte d'opulence apparente, en tout cas. Je n'imagine pas que la revue soit forcément très, très opulente par ailleurs.
Non, en fait, c'est vrai que le papier, par exemple, de couverture, c'est ce que les imprimeurs appellent un peu la velours touch, c'est-à-dire c'est, cette espèce, ça donne une espèce de satiné. Bon, ça, c'est des choses qu'on a voulu, effectivement, avec l'éditeur. On a voulu le format, on voulait une revue qui ait de la place, qui soit ouverte au sens physique du terme. Et puisqu'on donne la place aussi à des plasticiens, que ce soit des peintres, que ce soit des photographes, ou que ce soit des installateurs, qu'on donne la place aussi à des musiciens, avec la possibilité non seulement de voir les partitions, mais aussi de les entendre, puisqu'on donne la place aussi à des vidéastes ou à des cinéastes, puisqu'on donne la place à des traducteurs, on donne la place aussi à des auteurs, qu'ils soient des auteurs de poèmes, entre guillemets, ou de prose, entre guillemets. On voulait que cet espace vivant qui bouge soit un espace physiquement agréable à découvrir, où en fait on respire.
D'accord.
Et cette respiration, c'est aussi une conception de l'espace. Alors, je suis passé moi à travers toutes les étapes, comme beaucoup, je pense, toutes les étapes de la fabrication de la revue. Quand j'ai commencé, d'abord, une revue, il faut qu'il y ait un imprimeur. Moi, quand j'ai commencé la revue en 88, j'ai commencé d'abord à la concevoir en 88, il manquait un imprimeur et il fallait trouver l'argent. Et en fait, ça s'est fait grâce à un libraire qui était aussi éditeur, qui a édité Perros, qui a édité Grals, qui s'appelait Bernard Guillemot, et qui m'a dit, alors qu'il était à l'hôpital, écoute, je vais appeler mon imprimeur, il va te faire un tarif. Une revue, ça commence aussi parfois par des gestes aussi simples. Et ensuite, bon, l'imprimeur, il habitait à 300 km. Donc, on assemblait la revue par petits bouts, on prenait des ciseaux, on prenait du scotch, on collait, et ensuite, on envoyait tout ça, non pas par mail, ça n'existait pas, par courrier, c'était pas forcément sûr. Donc, je me déplaçais, je faisais les 300 km pour aller dans le Finistère, au Guilvinec, et là, l'imprimeur, ben, on passait une après-midi à voir comment monter la revue. Et puis ensuite, eh bien, il fallait qu'on, de nouveau, j'y retourne. Et il y avait tout ce travail qui était aussi un déplacement physique. Mais le déplacement physique, c'est aussi le déplacement de la pensée et le déplacement de la rencontre. Physiquement, on bouge. Ça veut dire aussi que mentalement, on bouge. Et ça veut dire que les choses se font en collaboration avec d'autres qui ne sont pas des auteurs, qui ne sont pas des créateurs, mais qui sont à leur manière. Donc moi, je privilégie toujours le rapport aux gens de métier. J'ai travaillé avec des imprimeurs en typographie, je travaillais en offset, je travaillais en numérique, j'ai travaillé en print on demand, comme on appelle ça, c'est-à-dire à l'impression à la demande. Et à chaque fois, et là avec la revue c'est encore le cas, à chaque fois on tombe, même dans des structures complètement énormes comme Hachette par exemple, on est tombé chez Hachette au tout début de la revue sur quelqu'un qui nous a dit « Ah moi votre projet m'intéresse ». En tant qu'imprimeur, en tant qu'homme de métier. Et on va essayer de composer ça de façon vraiment à ce que ce soit impeccable au niveau des couleurs, au niveau du rendu des œuvres, au niveau de la mise en page. Donc ce travail-là est un travail que je trouve passionnant. C'est aussi le travail de la revue. D'accord. Et c'est pour ça que ça s'appelle Babel Heureuse. Alors évidemment, aujourd'hui, si on regarde la situation politique un petit peu, ça n'a pas l'air très heureuse. Mais finalement, la revue, c'est aussi une sorte d'utopie qu'on essaie de rendre physiquement concrète.
Mais alors, dis-moi, parce que là, tu parles du soin artisanal, pratiquement même artistique, pour fabriquer cet objet papier. En quoi sa version hyper médiatique est-elle un apport qui t'apparaît aujourd'hui nécessaire ?
Alors, d'abord, bon, j'ai travaillé un peu avec François Bon à un moment donné, justement, sur une collection de poésie pour des livres électroniques. Alors, le livre électronique, ce n'est pas forcément développé comme on aurait voulu, mais au tout départ, c'était des PDF, en fait. Mais il y avait... ce n'était finalement que le traitement de texte fixé sur un support qui est le support PDF, et puis qu'on peut lire sur un écran. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas fétichiser soit l'un, soit l'autre support, mais il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, il y a du papier, et le papier, on a envie de tenir une revue, on a envie de regarder Marie, ou bien Eric, c'est pareil. C'est l'idée, malgré tout, de tenir un objet, de le fabriquer, et en même temps, il existe, et tout le monde a sur soi pratiquement un téléphone portable ou le regarde pour voir même sur Internet, y compris pour voir Roland-Garros, eh bien, on est aussi dans ce monde-là. Donc, utilisons-le, ce monde-là. Et les œuvres, les photographies, les peintures, voyons-les sur écran. Les sons, les musiciens, entendons-les. Les auteurs, entendons-les parler. Pourquoi ne pas le faire? Alors, Gwen Catala, lui, il avait l'idée aussi que si c'est sur Internet, il faut que ce soit un objet, qui ne soit pas un site, qui ne soit pas un blog, qui ne soit pas un PDF, qui soit une création web. Alors moi, j'y connais rien dans les créations web. Je suis pas, programmeur, mais lui, oui. Donc, il sait comment, avec des outils informatiques, créer un objet, comme le font les imprimeurs, mais un objet sur écran. Ça n'est donc pas une simple réduplication de la revue, c'est vraiment la création d'un objet autre qui est une création informatique.
D'accord, mais j'en profite d'ailleurs pour dire que grâce à Babel Heureuse, j'ai découvert un auteur que je trouve absolument remarquable et dont la démonstration hypermédiatique a été convaincante. Il s'agit de Laure Gauthier dans le premier numéro de Babel Heureuse. Alors, il y a vraiment besoin d'imprimeurs pour faire une revue comme 21 minutes ? C'est bon, on parle.
Oui, il y a eu besoin d'un imprimeur pour que ça revienne pas trop cher, parce que ça a été un élément important, vu que le but était d'en faire le plus possible pour les distribuer. Donc, on a fait des calculs. Donc, au départ, avec l'argent récolté dans la cagnotte, on voulait peut-être acheter une imprimante, des cartouches. Mais en fait, on s'est aperçu que ça revenait trop cher et que c'était trop de temps. Donc, il y a eu besoin d'un imprimeur. Donc là, l'imprimeur, par contre, c'est la Corep. Donc, c'est un reprographe, c'est pas vraiment un imprimeur. Le but a été... ce qui a été intéressant aussi dans le parcours de la revue, de celle-ci en tout cas, parce qu'il y en a une autre où je me pose des questions un peu différemment, ça a été de faire au moindre coût. Et l'objectif était de faire le plus d'exemplaires possible pour
que... C'est combien d'exemplaires?
On a réussi à faire 1000 exemplaires, parce qu'il y a eu 1 200 € dans la cagnotte. Donc on a fait 1000 exemplaires, et après on a décidé de médiatiser, enfin de rendre visible la poésie et les œuvres des personnes qui sont là-dedans, qui nous ont envoyé des propositions aussi à l'oral, donc d'organiser aussi une soirée où les poètes ont pu venir lire, et où nous-mêmes et Stéphanie Durdy avons pu lire des textes qui étaient présents dans la revue. Donc la faire vivre sur papier et la faire vivre aussi à l'oral, quoi. Donc j'en étais où ? Ben voilà. Donc oui, l'imprimeur, ça a été plutôt le reprographe, et chercher à faire au moindre coût. Et après, utiliser aussi ce qui a été intéressant, comme malgré le fait que ce ne soit pas peut-être des imprimeurs de métier, ça a été aussi la relation avec la Corep, malgré tout, même si c'est une franchise, même si voilà. Ça a été que eux, le projet, les salariés de la Corep, quoi, le projet leur a plu. Et donc, on va dire, entre guillemets, le mot est peut-être un peu grand, quelque part détourné un peu les machines de la Corep et me les ont prêtées. Et j'ai pu passer derrière et j'ai pu utiliser les machines, les massicots, les agrafeuses, tout ça, que moi, j'ai pas chez moi, pour réduire le coût de la revue. Et donc voilà, donc il y a des gens qui ont mis dans la cagnotte. Il y a aussi des gens qui, assez spontanément, et c'est ça qui a été, beau et qui a fait ce que tu disais, c'est-à-dire de relier des gens entre eux, tout simplement, au travers d'une aventure. Voilà, des gens qui ont mis la main à la pâte en prêtant leur machine, ou en prêtant la machine de la Corep, qui n'était pas la leur, donc en détournant quelque part les machines. Donc voilà, ça a été toute une aventure aussi pour essayer de trouver comment en faire le plus possible en respectant une espèce d'éthique malgré tout, mais une éthique qu'on a découverte dans la pratique. Donc voilà, on ne pouvait pas se permettre, par respect aussi du projet et des gens qui avaient mis dans la cagnotte, de passer par un imprimeur trop cher. Malgré tout, c'était notre envie, évidemment, de passer par un artisan. Mais il y aurait eu, au final, 300 exemplaires à la place de 1000. D'accord. Donc, on s'est posé des questions pour que, avec comme base, l'objectif qui était vraiment la distribution dans la rue, au maximum de gens, voilà, faire cette proposition de poésie au maximum de personnes.
D'accord. Et je continue avec toi, parce qu'il est écrit comme sous-titre, si je puis dire, « Journal gratuit de poésie au sens large ». C'est quoi le sens large ?
C'est prendre la poésie... J'ai découvert la poésie assez tard, la poésie contemporaine, et j'en ai écrit. Puis à un moment, je pense comme tous ceux qui s'y intéressent et qui écrivent, j'ai commencé à mettre le mot poésie à l'intérieur de mes poésies et à me poser la question de ce que c'était en fait que la poésie. Donc la poésie, c'est peut-être le poème, c'est-à-dire un texte terminé. Mais est-ce que la poésie doit revenir à la ligne, enfin des choses toutes bêtes. Est-ce que la poésie est verticale? Est-ce que la poésie emploie tel ou tel champ lexical? Est-ce que la poésie? Et puis comme toutes les questions qu'on se pose sur des choses qui sont finalement théoriques, j'en suis arrivé à un moment à me dire que la poésie, c'était rien ou c'était tout. Je suis reparti de ce principe.
D'accord.
Donc, au sens large, ça veut dire que, bon, il y a évidemment pour l'idée de communiquer peut-être une ouverture. Et il y a aussi l'idée de communiquer le fait que la poésie, que la prose poétique, la poésie verticale, la poésie d'une photographie, la poésie d'un dessin peut être abritée sous le même toit, qu'on appelle malgré tout poésie, puisque à un moment, je décide et on décide de mettre le mot poésie.
D'accord.
C'est
d'accord.
Ouvert à notre définition. Quoi.
Okay. Finalement, tu publies de la poésie au sens large.
Oui, j'espère.
Mais non, parce que, effectivement, Pascal Poyer, quand tu lui poses la question, parce que, comme Hervé l'a dit, chacune des livraisons est accompagnée de trois questions faites à l'auteur, qu'on peut lire sur le site internet. Et Pascal Poyer, effectivement, te reprend au moment où tu dis le mot poésie. Il dit que pour lui, il n'utilise jamais le poésie. Il dit qu'il écrit des textes.
Mm-hmm. Voilà. Bon, disons que c'est vrai. Il y a une mode des poètes qui réfutent le mot poésie ou qui en ont peur ou qui s'en tiennent éloignés. Moi, ça me dérange. Enfin, je sais pas. Voilà, il y a un poète qui vient de s'asseoir, Nicolas Tardy. Lui, quand on lui dit qu'il écrit des poèmes, il est d'accord. Je crois que c'est un faux débat, quoi. Je suis d'accord avec l'idée plutôt. C'est plutôt pousser l'expérience de l'écriture l'amener sur un terrain où elle ne va peut-être pas d'ordinaire, ou en tout cas essayer d'en pousser les limites. Voilà, on pourrait dire que c'est la poésie, ça. En ce sens-là, on pourrait reprendre cette question de la métamorphose, qui est inscrite dans l'histoire de la poésie depuis fort longtemps, hein, et dire que chaque fois que la langue est métamorphosée, alors on peut dire qu'il y a travail poétique.
D'accord.
S'il fallait véritablement et absolument donner une définition du mot poésie. En tout cas, L'Ours Blanc publie des textes, alors là, je suis assez d'accord avec Pascal, et qui ne sont pas forcément des textes sur lesquels on peut coller l'étiquette poésie.
D'accord.
Je reste très, très prudent.
Marie, je crois que tu ferais à peu près la même analyse. D'ailleurs, quand on regarde ce que tu publies, ça ne ressemble pas à de la poésie. Hein.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, André?
Il nous cherche, hein, je crois.
Non, mais toi aussi, ton exception, quand on lit La tête et les cornes, il n'y a évidemment pas de limite ou de frontière à ce que vous publiez en termes de genre, d'une certaine manière.
Poétique, non, c'est sûr. Cas. Bon, après, c'est très compliqué. Hein,
oui, c'est pour ça. On ne va pas passer le quart d'heure qui nous reste peut-être aussi à définir le mot poésie. Ils ont passé des périphéries, 30 fois la périphérie, pour voir ce qu'était la métamorphose de la poésie. Non, on ne va pas s'y coller. On est des petits joueurs.
Après, juste un truc sur...
Oui.
un truc sur le mot poésie et le mot texte. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé, qui avait eu accès à un manuscrit de Baudelaire où l'éditeur avait mis le mot poésie et lui, il avait barré et voulait vraiment le barrer et mettre le mot texte. Il disait, j'écris des poèmes parce que c'est la forme que je donne à mes textes, mais avant tout, j'écris un texte. Et donc, cette question de la poésie, le mot poésie non assumé, peut-être, ou qui peut-être crée une fermeture, peut-être, pour les lecteurs, elle a toujours existé, enfin, elle existe depuis longtemps, quoi.
Absolument. On va prolonger, puisqu'il nous reste plus qu'un quart d'heure, on n'est pas arrivé tout à fait au fond, à l'objet même du débat. L'objet du débat, en fait, c'est un peu Marie qui l'a instillé, si je puis dire, dans un entretien qu'elle a mené avec sa graphiste et qu'on retrouve dans ce numéro de la revue des revues que l'association Entrevue publie. Entretien, d'ailleurs, dont Hervé fut à l'initiative. Et je trouve qu'il y a cette phrase qui, finalement, correspond tous à ce que nous souhaitons faire. Je trouve, en tout cas, qu'il y a quelque chose de commun entre l'objet que tu as conçu, dit-elle à la graphiste, dont tu rappelles le prénom. Parce que
c'est Johanna.
Johanna. Donc, je trouve en tout cas qu'il y a quelque chose de commun entre l'objet que tu as conçu, Johanna, et les textes qu'on publie. Donc, il me semble que c'est vraiment là le cœur du sujet. C'est comment faire revue à partir des choix de textes qu'on a envie de publier. Au fond, la question qui est posée, est-ce que les textes qu'on aime suggèrent déjà un peu leur parure, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est la forme choisie qui va elle-même jouer de contrainte pour les textes qu'on va publier ? François ?
Oui, alors en fait, je pense que ce que l'on veut dire, ce que l'on essaye de dire, impose sa forme. Voilà. C'est-à-dire que la forme, elle naît, évidemment, du désir qu'on a de formuler quelque chose. D'une forme que l'on a peut-être déjà en tête. Mais il ne faut pas que la forme soit vide. La forme, elle est toujours l'émanation d'un désir, d'une ambition, d'une idée que l'on a, qui cherche à trouver...
Justement, dans les textes que tu publies, tu penses qu'effectivement, par exemple, il pourrait difficilement se retrouver peut-être pas dans la tête et les cornes, mais en tout cas dans l'ours blanc. C'est-à-dire que l'espace réduit, contraint, pauvre, on va dire, de l'ours blanc te paraîtrait parfois, pour certains textes que tu publies, malaisé.
Je ne crois pas. C'est-à-dire que l'air qu'on respire n'est pas pauvre. Une revue comme la nôtre veut qu'on respire. C'est un choix qu'on fait. C'est simplement un choix physique, presque. C'est-à-dire que j'ai fait des revues, enfin, le premier Babel Heureuse était du format de la tête et les cornes, et on l'avait imprimé exactement comme 21 minutes sur des presses, grâce à quelqu'un qui nous avait prêté aussi une photocopieuse. Là, l'idée qu'on voulait, c'est, voilà, on a envie de respirer, on a envie de trouver de l'air, on a envie que les choses, que les textes, que les œuvres présentées permettent tout simplement de respirer, de prendre le temps. Et donc cette notion d'espace, il fallait qu'elle soit concrètement réalisable.
D'accord.
Et donc on accueille les ateliers. Nous, notre idée, c'est qu'on voudrait que les gens nous ouvrent un peu leur atelier. Donc ensuite, il y a tout le temps qu'il faut pour parler avec la personne, découvrir le travail. Et ensuite, la personne sait à peu près comment est la revue. Donc elle a déjà cette notion d'espace et elle s'inscrit dans cet espace. Mais sans aucun problème. Hein.
D'accord. Mais je me tourne vers toi, puisque précisément, c'est presque une contrainte là, pour l'ours blanc, pour les auteurs. Je ne sais pas, Marie, comment tu as travaillé. C'est-à-dire, est-ce que c'est une commande? Il faut que ça remplisse exactement ce nombre de pages-là. Ça ne peut pas faire plus de signes que ça, etc. Non, mais parce que là, c'est presque un jeu aussi entre l'éditeur et l'auteur.
Je peux dire deux mots. Alors, en fait, alors déjà, c'est compliqué. Moi, je perçois pas du tout l'ours blanc comme un espace contraint, vraiment, pas du tout. Pour moi, c'est très généreux. Plus, c'est presque un peu excessif, puisqu'on est, on est tout seul dans cette revue, plus ou moins. En fait, bon, moi, c'est une revue que je connaissais avant qu'on se rencontre avec Hervé, que j'adorais, que je trouvais très, très belle, et puis très, j'aimais beaucoup la ligne éditoriale de la revue, dans sa diversité. Et en fait, quand Hervé m'a proposé de lui proposer un texte, parce que c'est une sorte de main tendue, finalement, la manière dont Hervé fonctionne pour ensuite publier ses textes, bah, c'était pour moi, ça a été juste un point de rencontre aussi entre quelque chose qui était autour duquel j'étais en train de travailler, en l'occurrence une sorte d'exploration de la correspondance de Kleist, et puis il se trouve aussi un vrai point de convergence entre Hervé et moi, puisque Hervé est un grand lecteur de Kleist, et puis des conversations qui ont débouché sur par la suite aussi pour moi sur quelque chose qui s'est prolongé au-delà de l'espace de la revue et qui ensuite existe dans le livre qui est sorti il y a un mois. Donc en fait, je dois à l'ours blanc réellement une partie entière de ce livre, donc je trouve ça merveilleux et je suis très reconnaissante à l'ours blanc de m'avoir donné cette occasion pas tellement de produire quelque chose qui aurait été encadré par des contraintes, même s'il y en a bien sûr, mais simplement de donner un espace de, enfin vous parliez d'air, de me donner de l'air pour écrire en fait. Hein,
et toi, en tant qu'éditeur, je ne dis pas le cas de Marie simplement, mais c'est vrai que pour l'auteur, il faut qu'il sache où il s'engage. Ça peut être trop peu, enfin, à la fois c'est beaucoup.
Des limites ou des contraintes matérielles, il y en a forcément. C'est-à-dire que quand on a pensé cet objet, on avait envie justement de publier des textes alors, qui d'ordinaire... trouve peut-être difficilement des canaux éditoriaux, à savoir peut-être parce qu'ils sont trop longs pour être en revue, peut-être parce qu'ils sont trop courts pour faire un livre, et aussi comme par hasard parce que leur inscription générique est peut-être problématique ou floue ou posée question. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'à la fois, je dirais, enfin, je reprendrai ce que dit Marie, donc il y a il me semble que l'offre éditoriale, elle est généreuse. On a un cahier qui peut aller jusqu'à 32 pages, donc ça permet d'avoir pas mal de textes. En même temps, il y a une contrainte de format, parce que pour nous, il y a aussi une contrainte de prix. On a parlé d'économie tout à l'heure, et on veut publier des textes, et on veut que ça coûte rien. Donc ça coûte 5€ un numéro de l'ours blanc. Donc on ne fait pas une revue plus lourde pour ça. Voilà. On aime bien aussi cette ambiguïté attachée au fait qu'on publie une collection de courts textes, au fond, tout autant qu'une revue, et qu'on est dans cet entre-deux. Et que souvent, les travaux qu'on accueille sont des travaux qui sont dans un entre-deux. Je citerai aussi comme exemple, peut-être pour essayer d'éclairer un peu la manière dont on travaille, l'ours blanc qu'on a fait avec David Lespiot. Aussi. Lespiot est poète, il publie régulièrement des livres chez beaucoup d'éditeurs, et non des moindres. Et à l'ours blanc, il a donné un projet spécifique. Et il me semble qu'il y a un western en vers, peut-être une forme plus légère, plus ironique que ça n'est le cas dans ses autres livres. Et je dirais que une revue, ça doit être ça aussi, c'est-à-dire ça doit être un espace éditorial qu'on offre à des écrivains, des poètes, confirmés ou non, pour tenter des choses que peut-être ils ne tenteraient pas autrement. Et peut-être pour poursuivre des projets que, par ailleurs, ils n'auraient pas poursuivis s'ils avaient pensé à d'autres formes de publication de leurs textes. Ce qui, par contre-coup, nous justifie le fait qu'on existe. C'est-à-dire que si on publie des textes, ces textes-là, on les publie parce que l'ours blanc est là, pour les publier, que peut-être ils ne verraient pas le jour autrement. Mais en même temps, voilà, il faut toujours être très prudent, puisque, comme le rappelait Marie aussi, bah, le texte sur Kleist, il aurait sans doute existé sous une autre forme, et il s'est poursuivi. Il est repris là, dans le livre. Donc, les frontières ne sont pas non plus totalement étanches.
Oui, mais c'est certain que s'il n'y avait pas eu l'ours blanc, non, ça n'aurait pas pris cette forme-là par la suite. Hein. Je ne pense pas.
François, donc, disons que, comme tu le disais, la Babel Heureuse est très ouverte, c'est le moins qu'on puisse dire, aux arts plastiques sous toutes leurs formes. Est-ce qu'il y a comme ça un travail spécifique, une forme de d'écho, de chambre d'écho entre les textes publiés et les œuvres? On ne peut pas appeler ça de l'iconographie, ça serait stupide, puisque ce n'est pas de l'iconographie, c'est des œuvres à part entière. Est-ce que tu essayes d'aménager des sortes de résonances, de passerelles? Est-ce que c'est les textes mêmes qui peuvent susciter tel artiste, etc.?
Oui, alors tu parlais de résonances et de passerelles. Bon, effectivement, je vais à la découverte de différents travaux, différents ateliers. Je recueille, après avoir discuté avec les auteurs, avoir pris contact avec eux, je recueille ce qui me semble vraiment intéressant. Je laisse un peu, reposer. Et ensuite, se fait un lien, une série d'échos qui est ni plus ni moins que la lecture que je fais de cet ensemble. C'est-à-dire des liens que, explicitement, je suis capable de me formuler ou qu'implicitement, je ressens. Cette lecture que j'offre à travers le sommaire, finalement, et l'ordre de la revue, j'imagine que le lecteur pourrait partir à la recherche de cette cohérence. Mais le lecteur, lui, il ouvre toujours la revue autrement. C'est-à-dire qu'il ouvre toujours des espaces différents. Mais au départ, il y a la cohérence d'une lecture. La lecture de celui qui trouve la cohérence là où apparemment il n'y en aurait pas. Mais c'est finalement ce qu'est la lecture. Et c'est ce travail-là qui est un travail qui demande du temps, qui demande du silence, qui demande pas mal d'écoute et de la finesse de lecture aussi. Les trop gros liens ne m'intéressent pas, les parties différentes, une revue séparée en différentes parties. Moi, je préfère quelque chose qui soit plus fluide, plus fin, quelque chose qui soit presque indistinct par moment. Mais c'est au lecteur de rentrer dans la complexité de l'agencement. D'accord. C'est comme dans un livre, en fait.
D'accord, on va bientôt devoir conclure. Fabien, en un mot, est-ce qu'il y aura un journal gratuit numéro 2, puisque j'ai eu des échos comme quoi c'était pas si simple de réunir à nouveau soit une cagnotte, soit des publicités vertueuses pour produire le numéro 2 en deux mots, hein, puisque j'aimerais bien ensuite vous entendre lire.
Le numéro 2, il est certain qu'il existera, ça c'est sûr. Après, en combien d'exemplaires, ça on peut pas le savoir, puisqu'on est voué au budget. Donc, mais par contre, il existera, c'est une promesse qu'on s'est faite, parce qu'il y a suffisamment de textes et d'images et que la maquette est quasiment prête, qu'il y a déjà un petit peu d'argent dans la cagnotte, donc le numéro 2 et le numéro 3 existeront.
Donc on peut te donner des sous, une fois que le débat est fini, on peut t'apporter. D'accord, rien n'est jamais gratuit au fond.
Voilà, c'est pas gratuit.
Deux choses. D'abord, je voudrais saluer les revuistes qui sont parmi nous, qui auraient pu parfois se retrouver là. Je pense à Sanda Voïka, qui fait une revue qui s'appelle Paysages écrits et qui a eu l'audace de passer du numérique au papier. Pierre-Yves Soucy, qui fait L'étrangère, qui ne pourrait jamais être numérique, puisqu'elle ne pourrait même pas rentrer dans un disque dur. Et Mathieu Nus, qui fait une revue qui s'appelle La Revue, au fond, ou La Revue Astérix. C'est quoi, Astérix ou pas? Astérix. Voilà, et il y en a peut-être d'autres que je m'excuse de ne pas saluer. Je ne sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'aimerais, avant qu'on conclue... Yves, c'est à 3 heures qu'on doit conclure? Un peu plus?
On peut accueillir une ou deux questions avec grand plaisir.
Bon, parce que je voudrais que nos amis lisent, et puis Bernardo Schiavetta, qui faisait une très belle revue qui s'appelait Formule. S'il y a des questions, allez-y, parce que j'aimerais bien que nos amis nous fassent part d'un petit texte qu'ils auraient plaisir à lire avant qu'on se quitte. Donc allez-y, si vous avez des choses à demander ou des commentaires à faire, gentil.
Méchant, alors.
Pas de commentaire. Pas
sachant
de...
que le premier qui, ou la première qui pose la question, c'est un peu le héros, parce que c'est le plus difficile. Donc.
Non, mais s'il n'y a pas de question, on va... Bernardo, ben justement, ben alors l'autre, il revient d'Argentine pour avoir une question à poser.
Non, je veux dire une chose gentille.
Ah bon ?
J'ai fait pendant 14 ans une revue qui est devenue actuellement une revue académique à l'Université de New York à Buffalo. Et si je n'avais pas eu l'appui d'entre revues, du CNL, etc., j'aurais pas pu la faire parce que je pouvais avancer l'argent, mais il fallait que je récupère quand même un peu. Donc, vraiment, entre revues, merci. Merci, CNL.
Mais je vous en prie. Il peut y avoir une confusion des gens. Nous ne distribuons pas d'argent, nous en recevons. C'est vrai, on fait des efforts et on a du mérite. Alors, on va maintenant passer aux lectures. Marie, tu es la première, tu nous lis quelque chose ?
Avec plaisir, je vais vous lire un poème, vous m'entendez, oui ? De Ho, donc cet auteur coréen qui écrit en japonais.
C'est court, hein, j'espère.
C'est très court.
D'accord.
C'est un texte qui a été écrit en 1948. Généralement, on publie des poètes contemporains, mais là, c'est une exception. Les pommes de Taegu. Dans les champs de pommes, les pommiers sont alignés. Dans les champs de pommes, les pommes rouges mûrissent. Les villageoises aux cheveux noirs, en cueillant les pommes, chantent. Pieds nus, chantent. Leurs paniers débordent de pommes comme des visages de jeunes filles. Au-dessus des champs, brille un chaud soleil d'automne. Par une après-midi calme sans nuages, les pauvres cueilleuses de pommes, en versant des larmes comme des perles, chantent. Sur un air plein de rancœur, chantent. Les murs de la prison sont trop hauts, les murs de la prison sont beaucoup trop froids. Une chanson sur la prison d'où cet homme aimé venait de sortir après 5 ans de souffrance. Il y fut renvoyé l'année dernière après les événements d'octobre. En cueillant les pommes, elle chante. En cueillant les larmes, elle chante.
Alors, Hervé, quelle montagne nous donnes-tu à escalader ?
Non, pas du tout. Je vais vous lire un extrait du numéro de L'Ours Blanc qui était consacré à Lorenzo Menou, qui est un poète genevois. Son poème est une suite de pages poétiques décomptées. 1, 2, 3, 4, 5, un espèce de compte à rebours à l'envers aussi, ce qui refait un compte à l'endroit, sur la question du décollage de la fusée des mots. 1. Bien sûr, qui n'a pas rêvé d'un semblant d'audace ? Qui n'a pas attendu qu'on vienne nous chercher ? 2. À l'heure qu'il est, trop tard et trop tôt ne sont plus de mise, le temps nous étire. 3. Ce que je poursuis, je suis bientôt le seul à le savoir. Les étapes pour m'atteindre se tenant hors de toute portée. 4. C'est comme traverser une rivière que l'on ne saurait traverser. 5. On ne peut ni revenir en arrière, ni même avancer. 6. Tant de bouts de bois charriés. 7. Pourtant, de cette idée, 8, la surface des choses en est troublée. 9, cette idée de s'élever nous plaisait, c'est courant. 10, mes pieds sur les pierres vacillent. 11, si bornée qu'elle ne nous mène nulle part. 12, le mouvement des berges s'accélère. 13, nous tiens sur place. 14. Oui, j'y vois clair désormais. 15. Je suis l'obstacle à mon départ. 16. Jamais je ne partirai. 17. Ici sera ma demeure.
À toi, François.
Oui, alors je vais lire un texte d'une poète russe qui s'appelle Karimuksova, qui a traduit André Markovitch et dont la première publication en français s'est faite donc dans Babel Heureuse. C'est une poète qui était née en 1941 et qui est morte assassinée par le KGB en 1983. Le ciel qui se lave et qui luit de son rêve de ciel. La voûte qui s'ouvre, le bleu tout timide, un œil rond. Le bois de bouleau se blanchit de sa peau de mortel. Ce rire, tout près. Des fracas rougeoyants bûcherons. La source s'épuise à chercher le début de son chant. La mort charbonneuse à côté se cachant, nous hachant. Le tremble élant dans les loques du vent le coucou. Les aulnes saignant orangées. Je meurs pas, moi, c'est tout. Coucou sur sa branche perchée, imbécile, têtu. La mort bûche, à côté, qui éclate et qui tue. Copeaux, feu follet, brins de feu et bravaches sans mort, des jeux et des tues. Et voici l'hippodrome, le port. Chevaux récoltables tassés à plein bord de viviers. Là-bas, vermillon des Kazakhs, la vieille a crié. Brasier rouge et or des récoltes, tonnerre et hurrah. Sabots par-dessus les barrières, tu vois, tu pourras. Ces maigres chevaux, comme ils tremblent, leur sexe est tout noir. La peur est cachée dans leur sexe, la peur à pas voir. Quel bois je me chauffe, dit-elle, ça cogne et c'est sourd. T'as vu le manège ? Ma tête. Et ça tourne ses tours.
Fabien, à toi.
Je vais lire un texte de Grégoire Damon. Voilà. Grégoire Damon. Allons, on va pas se raconter d'histoire. C'est l'appel d'air qui nous fait naître. C'est la galerie qui nous anime. On ne se suit pas tout à fait question rythme, mais c'est ça qui nous plaît. Que ce soit une colonne d'air et que ce soit collectif. À la limite, il faudrait être con comme un hymne national, mais pas forcément aussi méchant. Toujours une raison de se réjouir quand même. Si on pue ensemble, c'est qu'on sue ensemble. Ici, c'est le métro. C'est l'heure de pointe. Pour l'instant, on s'entraîne encore à chanter. Chacun dans sa tête, mais dans les virages, dans les déraillements, il y a promesse. C'est le métro, c'est l'heure de pointe. Serré, déjà tout un peuple debout.
Merci. Je crois qu'on va conclure. Je vais conclure par un petit poème, d'ailleurs, que j'ai trouvé dans 21 minutes. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment approuver tout ce qu'il dit, mais je suis un poème qui ne cherche ni le cercueil du recueil, ni le cimetière de la bibliothèque, juste un regard, juste une voix, juste une écoute. Voilà, en tout cas, l'écoute, merci de nous avoir écoutés. Et je précise qu'on peut retrouver trois des revues qui sont là sur le stand 704, je crois. Donc La tête et les cornes, 21 minutes, ainsi que La terrasse, la seconde revue de Fabien, et Babel heureuse avec plein d'autres revues. Quant à toi, tu es sur le stand 601 que tu partages avec d'excellents éditeurs, dont Ypsilon, chère éditrice. Voilà, merci à tous, et puis n'hésitez pas à interpeller nos amis quand ils vont descendre de scène. Voilà, merci.
Merci à André Chabin, que nous retrouvons aussi avec Entrevue, qui organise ce kiosque des revues sur le stand 700-704. Dans quelques instants, le temps de remettre un petit peu d'ordre, de laisser les gens aller respirer un peu, à 15h30, nous allons recevoir nos amis poètes néerlandais pour la dernière fois pour cette édition.